Votre connexion Internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio Okapi.net, à votre service.
Bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Aujourd'hui, nous parlons de l'indépendance financière. Comment atteindre l'indépendance financière? De nombreuses personnes vivent dans la dépendance financière. Leur seule ressource, leur seule source de revenus, c'est les salaires que l'employé donne à la fin du mois contre un certain travail. Généralement, ce montant n'arrive pas toujours à couvrir tous les besoins auxquels on fait face, le logement, les minervales, les transports et bien d'autres choses. Pendant, il est possible de s'affranchir de cette logique de rémunération en ayant ou en multipliant d'autres sources de revenus. Alors comment faire pour vivre sans dépendre uniquement de son salaire? Eh bien, nous allons aborder toutes ces questions avec notre invité Ricardo Kanyama, coach en éducation financière, auteur du livre, du célèbre livre La chèvre de ma mère. Ricardo Kanyama, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi. Bonjour, chers auditeurs de la radio Capi.
Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par indépendance? Ou d'abord, c'est quoi la dépendance financière?
Voilà une question très importante. La dépendance financière, c'est lorsque l'homme est obligé de travailler tout le temps pour produire le moyen de survie. Cela fait qu'il dépend donc de son travail et c'est là une conséquence parce que lorsque l'homme arrête de travailler,
il n'aura plus son salaire.
Il n'a plus de revenus.
Il ne parle
même plus de salaire, mais de revenus.
De revenus, oui.
Et quand il n'a plus de revenus, donc il retombe, il rechute dans l'extrême pauvreté. Voilà. Alors malheureusement, dans notre société, tout le monde a été formé sous cette logique de la dépendance financière, qui se caractérise par la stabilité financière. Donc les gens ignorent complètement la notion de l'indépendance financière. Ils ne s'orientent et ils n'agissent que pour la stabilité financière. Ce qui fait que lorsque le travail du revenu actif s'arrête, ça peut être avec la fin d'un contrat, ça peut être avec le vieillissement ou la retraite, on voit que les gens qui avaient un niveau de revenu très élevé à un certain moment se retrouvent dans la précarité financière. C'est pour cela que nous voulons sensibiliser la population afin qu'ils comprennent d'abord la différence entre la stabilité financière et l'indépendance financière. Enfin, et après leur montrer donc comment travailler pour atteindre l'indépendance financière.
Et quelle est la différence entre la stabilité financière exactement et l'indépendance?
Je prends un exemple de quelqu'un qui a un revenu de 3 000 $ le mois. C'est beaucoup d'argent, mais on ne sait pas encore dire si c'est la stabilité financière ou l'indépendance financière. C'est la stabilité financière si ses revenus étaient un revenu actif, ça veut dire lié à son travail. Il est obligé de travailler, donc il se réveille, il va au travail, il vend son temps, il prend
son énergie, son intelligence,
ses connaissances, son intelligence, et il obtient ses revenus. Alors c'est un revenu actif. Nous dirons qu'il est dans la stabilité financière. Pourquoi? Parce que cette stabilité va s'arrêter lorsque cette source de revenus aussi va s'arrêter. S'il arrête de travailler, les revenus aussi s'arrêtent. Maintenant, une autre personne qui gagne 3 000 $ et qui n'est pas obligée de travailler, donc il a travaillé pendant un moment, quand il arrête de travailler, il continue à avoir les 3 000 $, nous dirons qu'il a atteint l'indépendance financière. Ça veut dire qu'il peut continuer à avoir les moyens de survie sans être obligé forcément de travailler. La question est simple pour savoir si on a la stabilité financière ou l'indépendance financière. C'est de se poser la question, aujourd'hui j'ai une source de revenus, j'ai un travail, j'ai un contrat, mais si j'arrête de travailler aujourd'hui par une raison, par une autre, combien de temps je peux rester pendant un mois, une année, 5 ans sans pouvoir entrer et dans une phase où on devient nécessité, on est obligé de travailler pour de l'argent.
On le voit souvent même en politique, certaines personnes lorsqu'ils étaient
au pouvoir,
il y avait des moyens dès que la personne quitte son poste, c'est fini.
C'est un problème général, c'est pour cela que nous en parlons, c'est un problème qui touche parce que l'ensemble de notre pays, M. Jody, je suis intéressé à cette problématique, j'en fais des recherches depuis bientôt 12 ans. Les résultats montrent que notre population est ignorante en matière de richesse et ce sont des thématiques qui ne sont pas bien connues. Vous savez que l'ensemble de ceux qui travaillent dans notre pays depuis 1960, lorsqu'ils vont en retraite, ils se retrouvent toujours dans la pauvreté. Qu'ils aient travaillé, fait carrière dans la banque centrale, dans la fonction publique, qu'ils aient occupé des positions, ils ont gagné beaucoup d'argent. Mmh. Et vous parlez même à la politique, nous avons vu, hein, nous avons vu, vous savez que les députés qui n'ont pas été élus, oui. Dans 2-3 ans, on va les voir qui se retrouvent dans, peut-être 2 ans c'est beaucoup, dans les difficultés financières, mais c'est dû à un problème profond, c'est parce que notre population est ignorante et c'est un problème. Des millions de gens étudient pendant beaucoup d'années, ils travaillent plus de 35 ans, mais par l'ignorance de ce dont nous allons aborder, même la différence entre la stabilité financière et l'indépendance financière, des millions de gens sont incapables de sortir de ce que nous appelons le cycle de la pauvreté, du cycle de dépendance pour atteindre l'indépendance. Voilà pourquoi toute une nation ne peut pas évoluer dans ces conditions.
Et qu'est-ce qu'il faut pour briser ce cycle des dépendances financières? Dès qu'on termine, on arrête son boulot, on a des difficultés financières. Qu'est-ce qu'il faut faire pour si on termine son travail, mais on continue à vivre normalement?
Je pense que c'est d'abord un problème de prise de conscience. Je voulais vous faire remarquer que la prise de conscience parfois constitue une étape très importante dans la résolution d'un problème. Pour aider un peu les auditeurs à les comprendre, je vais parler aussi de l'histoire de la tomate. Je ne sais pas si les gens connaissent l'histoire de la tomate.
Alors, racontez-nous un peu l'histoire de la tomate.
Aujourd'hui, tout le monde mange de la tomate. Hein? Oui. Mais vous savez qu'il y a des siècles avant, les Européens ne mangeaient pas la tomate. Parce qu'il y avait un botaniste français qui avait donné une définition de la tomate très dangereuse parce que c'était un légume qui venait de l'Amérique. Mm-hmm. Et il y a une perception négative de la tomate comme quoi c'est quelque chose, si vous mangez, vous pouvez mourir, il y a des venins et tout. Et curieusement, pendant ces siècles-là, lorsque les colons occidentaux allaient en Amérique, ils souffraient d'une maladie qu'on appelait les scorbites. Les scorbites, c'était une maladie due à l'absence de vitamine C. Et des millions de gens en mouraient. Ils avaient là à côté une solution, la tomate. Qui est riche en vitamine C. Oui. Mais par la conception qu'ils avaient de la tomate, personne n'osait manger, toucher à ces légumes. Mm. Par la suite, la conception a évolué. Il y a eu des sensibilisations, notamment même le président Thomas Jefferson a sensibilisé les gens, a encouragé les gens à manger de la tomate. Lentement, après un siècle, d'abord les Italiens, les Espagnols ont commencé à tester la tomate jusqu'à ce que les gens ont commencé à manger la tomate. Et on a éradiqué cette maladie juste par la prise de conscience qu'ils avaient une connaissance mauvaise sur quelque chose qui constituait donc la solution. Mmh. La même chose pour les problèmes des richesses en République démocratique du Congo. Il y a une solution. Cette solution peut passer par la sensibilisation. La sensibilisation sur le fait simple que la richesse est culturelle. La pauvreté aussi est culturelle. Et le fait que notre culture de richesse est tellement limitée par une absence totale d'éducation sur la richesse, ça peut être sur le plan familial, sur le plan religieux, sur le plan académique, sur le plan
scolaire,
ça fait que nous nous retrouvons avec une population qui est incapable de travailler pour atteindre l'indépendance financière.
Donc la première chose, c'est la sensibilisation.
C'est la sensibilisation, la prise de conscience. Cette prise de conscience peut venir par la sensibilisation. Que nous devons aujourd'hui prendre conscience que nos connaissances sont limitées, notre culture est une culture limitée, une culture conflictuelle, et la pauvreté actuelle n'est que la conséquence des limitations de cette culture. Et si nous voulons donc sortir de la situation actuelle, nous devons commencer par éclairer les ténèbres de la pauvreté par la lumière de la connaissance.
Monsieur Ricardo Kanyama, vous avez mis en place un programme d'aide à l'indépendance financière. Expliquez-nous comment ça fonctionne concrètement.
Oui, ayant perçu ces problèmes et sachant peut-être que la prise de conscience au niveau étatique prendra beaucoup plus de temps, personne ne sait, ça pourrait prendre un siècle ou deux siècles, nous avons donc été amenés à créer l'un des premiers programmes d'appui à l'indépendance financière. Ce programme est structuré sur, d'abord, à un objectif d'aider la population, d'augmenter les capacités de la population dans la création des revenus passifs. Je vais expliquer pourquoi des revenus passifs. Mm-hmm. Et c'est un programme qui est articulé sur trois axes. Donc nous avons la formation et le coaching sur les renforcements des capacités de création des richesses et des revenus passifs. Et nous avons ensuite l'intégration dans un système de consommation intelligente de la population. Et enfin, nous avons donc des mises en place des structures génératrices de revenus. Donc, le grand problème, c'est quoi? Vous savez, même lorsqu'une personne a été formée à l'école pour produire des revenus actifs, un bon professionnel, vous verrez que lorsque quelqu'un ne travaille pas dans une société, il est incapable de produire son salaire. Donc, quelqu'un qui a des compétences comme informaticien, qui travaille à Vodacom, qui gagne beaucoup d'argent, et Vodacom lui dit de ne plus travailler, vous voyez qu'il ne serait plus capable par lui-même de produire l'argent qu'il faisait à l'intégration à l'intérieur d'une structure.
Oui.
Ça veut dire, même pour la production des revenus actifs, on a besoin d'une structure qui vous aide. Mais pour des revenus passifs aussi, il est beaucoup plus difficile pour une personne de le faire de façon isolée.
Et qu'est-ce que vous appelez revenu passif?
Le revenu passif, c'est un revenu qui est produit grâce à ce que nous appelons un levier de richesse. Ça veut dire que ce n'est pas directement lié à ton temps, à 100% à ton temps et à tes efforts, mais c'est produit de manière qu'avec le temps, non seulement les résultats sont multipliés, comme si vous étiez en train d'utiliser un levier, mais vous pouvez continuer à avoir des revenus sans être obligé de travailler.
Je
vous donne un exemple. Tous les riches utilisent donc les leviers pour produire des revenus passifs. Les entreprises, les applications, les revenus locatifs, ce sont ces revenus qui sont passifs. Vous voyez, un exemple simple, quelqu'un qui a une maison qu'il a mis
en location.
Oui. Il ne sera pas obligé de venir tous les jours nettoyer la maison ou travailler, mais à la fin du mois, il aura
son argent.
Et ces revenus, on appelle les revenus passifs. Et c'est les revenus passifs qui fait sortir donc
de la dépendance financière.
Ce qui veut dire que lorsque vos revenus actifs sont supérieurs aux revenus passifs, vous êtes dans les cycles de pauvreté, vous êtes exposé à retomber dans la pauvreté. Et nous voulons justement faire évoluer la connaissance des gens dans ces domaines et aussi leur donner donc le moyen, la capacité et un cadre idéal qui leur permette donc de produire leurs premiers revenus passifs.
On va accueillir les auditeurs. Comment atteindre l'indépendance financière? Marcel Boto est à Kananga, Platini Mombo nous appelle de Mbandaka, Jérémy Mwamba est à Lubumbashi.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs, Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine, droits et citoyens. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30, tous les jeudis à 13h30.
Comment atteindre l'indépendance financière? On en parle aujourd'hui dans Capi Service avec Ricardo Kanyama, coach en éducation financière. Marcel Boto de Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, moi j'apprécie l'invité parce que quand il a parlé de coaching, j'apprécie ça. Parce que j'ai une tante maternelle, son mari avait un peu d'argent, c'est un grand commerçant, en dit. Maintenant, le mari est décédé. Comme la tante n'a pas beaucoup étudié, je dis rien, il n'y avait pas moyen qu'elle gère l'argent. Et la tante n'a pas donné confiance à la famille. Alors, elle a associé l'ami à son mari, à son mari. Maintenant, comme les bénéfices là, la tante ne voyait pas. En fait, quand on fait l'évaluation, la tante voit toujours que non, tout marche. Mais le monsieur, lui aussi, avait déjà mis ses matagins ailleurs. Alors la tante s'est retrouvée déjà avec les mouvements qui étaient à Kananga, tout commençait à baisser, jusqu'à tel point la tante est restée vide. Maintenant la tante commence maintenant à dépendre, à prêter de l'argent, à chercher tout, c'est le métier. Maintenant on se pose la question, d'où le métier a eu l'argent? C'est de la part de la tante. Maintenant je ne sais pas, je voulais poser la question à l'invité. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant aux gens? Parce qu'il a parlé de coaching, mais ici, on ne voit pas cette structure-là trop efficace. Parce qu'il y a trop de commerçants qui n'ont même pas étudié, mais malheureusement, ils ont l'argent. Mais il n'y a pas la capacité de gérer leur fortune, en fait, d'avoir l'autonomie financière là. C'est pourquoi je voulais poser à l'invité comment faire pour éviter ça.
D'accord, merci. Platini Mbombo, vous êtes en Bandaka, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama, bonjour à l'invité, bonjour à tout le monde.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup, je salue l'invité, je salue aussi la thématique du jour, c'est très intéressant. Quand on parle comment atteindre l'indépendance financière, hein, c'est une question qui se pose à tout moment dans nos milieux et dans nos, là où nous sommes. Je dis, je n'ai pas beaucoup à dire, mais j'ai une petite remarque, j'ai une petite contribution que je vais quand même contribuer.
Oui.
Ici, à Mbandaka, moi, je vis moi-même. Il y a un étudiant. Lui-même a fait tout. Il a cascadé, il a eu son moto, il commence à faire les wewa. Et lui-même supporte pour les frais académiques et tout ça. Mais il y a aussi d'autres filles qui font, on va voir le riz au cours de la route, tout ça, pour se prendre en charge, pour se faire étudier lui-même. Mais il se pose aussi une question, parce que quand on parle de la thématique d'aujourd'hui, comment atteindre l'indépendance financière, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde, fait tout pour atteindre l'indépendance là, mais ça, il se pose toujours un sérieux problème, parce que là où nous travaillons, on ne paye pas très bien, raison pour laquelle on fait de gauche à droite pour chercher comment on peut avoir quelque chose. Alors, pour ne pas aller trop loin, je voudrais quand même avoir un peu d'idée, si l'invité peut me répondre, en rapport avec ce qu'on appelle le bac la mer. Quelqu'un qui travaille, il touche peu, mais quand l'argent termine, il va directement ce qu'on appelle prendre l'argent à compte-goutte, donc à Ikotama. Alors, je ne sais pas si l'invité peut me dire qu'est-ce que c'est aussi prévu par la loi qu'on fait l'Ikotama, ce qu'on dit, c'est un bandaka, le bac la mer, qu'on donne pour rembourser encore le 50%. Voilà ce que je voulais quand même dire, et je vous remercie.
Bien, merci. Jérémy Mwamba de Lumbashi, bonjour.
Bonjour monsieur Jody, bonjour également à l'expert coach avec vous sur le plateau.
Jérémy, brièvement, quelle est la question?
Oui, juste d'abord, je voudrais un peu faire des petites observations, parce que je pense que l'exercice semble être difficile, mais pas très impossible. Mais je voudrais juste m'orienter dans cet aspect des choses, parce que on remarque pour la plupart, hein, vous allez voir, comment on peut arriver à être indépendant sur le plan financier, mais cependant, il faut vraiment organiser peut-être des petits ateliers, question de remettre un peu certains gens à niveau, surtout les gens qui travaillent, même ceux qui ne travaillent pas, qui travaillent dans les libérales. Donc, c'est question peut-être de leur donner un peu certaines directives, question qu'ils arrivent un peu à mieux s'orienter. Je vous donne ici un exemple. Il y a aussi beaucoup de paramètres qui font à ce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? Par exemple, quelqu'un qui contracte une dette à la banque, il s'engage, il contracte une dette seulement pour peut-être la construction, pour faire ses travaux. Jusque-là, il dépense tout l'argent, mais il ne sait pas encore retrouver les revenus. Tout simplement, je voudrais juste poser la question, est-ce que l'argent qu'on retire comme ça, faut-il le mettre aux actions de construction et ne pas engager ça pour une action quelconque qui peut peut-être fructifier l'argent? Parce que nous savons bien que nous avons tous appris en comptabilité. Lorsque le point actif, c'est-à-dire les passifs, semble être supérieur par rapport à l'actif, ce qui veut dire qu'on est vraiment en déséquilibre total. Maintenant, je voudrais savoir, parce qu'il y a aussi certains paramètres qui font que les gens n'arrivent pas à se retrouver, tout simplement parce qu'ils ne sont pas bien organisés, ils ne sont pas bien canalisés, comment est-ce qu'ils peuvent arriver? Je donne ici un exemple. Vous donnez à quelqu'un, deux personnes, l'autre 1000 dollars et l'autre 500. Maintenant, vous allez voir peut-être celui qui a 500 peut arriver à s'en sortir sur le plan financier, tout simplement parce qu'il a utilisé la bonne politique.
Merci.
On peut inculquer aux gens la bonne manière de pouvoir arriver à mieux s'en sortir, c'est-à-dire par peut-être des petits ateliers. Présenter les munitions, et la munition, ce n'est pas tout.
D'accord. Merci, Jérémy. Merci. Merci. Sur la page Facebook de l'émission Capi Service, les auditeurs nous ont écrit. Je suis Justin Kedi depuis la ville de Bounia. À mon avis, il faut investir dans un domaine comme l'agriculture ou bien créer son entreprise ou une boutique pour subvenir aux besoins de toute la famille, compte tenu de la réalité de notre pays. Ça, c'est Justin qui nous l'a dit depuis Bounia. Monsieur Ricardo Kanyama, vous avez la parole.
Voilà, merci beaucoup aux intervenants. Mais je crois que leurs interventions confirment ce dont nous sommes en train de dire ici. Il y a un problème et les résultats le prouvent. Mais c'est simple. Comme a dit Einstein, il a dit être insensé, c'est continuer de faire les choses de la même manière et attendre que les résultats changent. Donc, si nous constatons ces échecs, c'est dû à un problème, c'est dû à l'absence d'une connaissance. C'est dû à l'absence de compétences dans ces domaines où l'homme doit passer de la stabilité financière à l'indépendance financière. Pourquoi ? Parce que l'éducation que nous avons reçue, ce que les pauvres moyens perçoivent, est tellement limitée qu'il met trop ses efforts pour la production des revenus qui lui assurent la survie à un certain moment. Ce qui fait que l'indépendance financière, qui est un niveau plus élevé, on dirait que ce qui est un niveau plus élevé par rapport à la stabilité financière, peu de gens y accèdent. Mais justement, les connaissances vous permettent d'y arriver avec des revenus un peu bas. Pourquoi ? Quand vous n'avez pas ces connaissances-là, il devient pratiquement impossible d'y arriver. Vous voyez, je vais vous faire observer une chose. Mm-hmm. Regardez bien. J'ai fait mon observation, j'ai fait mes analyses, j'ai fait mes études. Vous pouvez aussi les faire par vous-même. Vous verrez qu'il est pratiquement impossible à un intellectuel congolais, quel que soit son niveau de diplôme, de devenir riche s'il n'est pas lié d'une manière ou d'une autre à une position politique ou une position qui lui permet de gagner beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas des notions de base d'intelligence financière comme la consommation intelligente, comme l'indépendance financière. Mmh. Et tout le monde n'a la possibilité de devenir riche que s'il a la chance d'être nommé au niveau le plus élevé. Oui. C'est d'ailleurs pour cela ce qui fait que nous arrivons dans un pays...
On a trop de candidatures.
Trop de candidatures, 15 000 candidatures pour 500 places. Oui. C'est parce que tout le monde sait que c'est le seul et meilleur emploi ou la seule possibilité de gagner donc... beaucoup d'argent en peu de temps. Alors que vous allez voir que parmi les riches qui sont devenus riches dans notre pays partant d'un petit travail, ce sont souvent des gens qui n'ont pas beaucoup étudié. Donc, des gens qui n'ont pas plus qu'un diplôme d'État, mais qui ont travaillé avec peu, avec de l'organisation, avec une connaissance pratique, et qui sont arrivés à devenir riches loin de la politique.
Mais vous parlez de la consommation intelligente. De quoi s'agit-il ?
La consommation intelligente, c'est une étape très importante pour s'en sortir de la pauvreté parce qu'il y a deux types de consommation. Il y a la consommation appauvrissante et il y a la consommation intelligente. Par défaut, si vous ne savez pas c'est quoi la consommation intelligente, vous allez utiliser une consommation appauvrissante. Ça veut dire une manière d'acquérir des biens et des services qui vous appauvrit tout en enrichissant d'autres personnes.
Des exemples.
Et notre pays, par exemple, en ce moment, lorsqu'on a été parlé de la pauvreté. Regardez, ici au Congo, qui sont pauvres ? Ce sont, par exemple, ici à Kinshasa, qui sont pauvres ? Ce sont les Congolais ou les étrangers ?
C'est plus les Congolais. Hein?
C'est plus les Congolais. Vous ne trouverez pas ici à Kinshasa un étranger qui va vivre à Kingasani, par exemple. Excusez-moi, je voulais juste montrer les différences de niveau. Vous verrez que tous les étrangers vivent ici à la Gombe, dans des meilleures conditions, dans des villas. Mais pourquoi ? C'est parce qu'eux, ils sont des vendeurs de produits ou de services. Je ne sais pas si vous comprenez. Et notre population n'est qu'une population qui fait la consommation appauvrissante. Donc, ils consomment de façon à enrichir ceux qui nous vendent des produits. Et eux-mêmes, ils restent pauvres. Parce que la consommation intelligente amène donc à un réseau de consommation appauvrissante aussi. Ce qui fait que toute une population qui consomme de façon non intelligente, de façon appauvrissante, il reste seulement à enrichir d'autres réseaux, bon, qui sont parfois les réseaux des Libanais, des Indiens, de ceci, et le Congolais lui-même reste dans la pauvreté parce que la consommation, quand elle n'est pas maîtrisée, elle devient source principale de pauvreté.
Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut pour accéder à une consommation intelligente ?
Oui, il faut d'abord se former, justement, dans le cadre des programmes d'appui à l'indépendance financière. Nous formons les gens en leur montrant comment et si tu ne fais que la consommation appauvrissante, tu seras là en train d'enrichir d'autres personnes et demain, tes enfants vont continuer à faire la même chose et ça va passer de génération en génération. Mais que la prise de conscience de cela t'amènera à utiliser une consommation qui te permet de gagner de l'argent tout en consommant. Et nous accompagnons ça par la création justement des structures. Là, j'ai parlé de la structure qui existe dans notre programme d'appui à l'indépendance financière qui permet à une personne de devenir vendeur de ce qu'il consomme et de gagner les intérêts qui enrichissent d'autres personnes. C'est ça la différence entre la consommation intelligente et la consommation appauvrissante.
Voilà, quelqu'un nous a écrit de Kananga, José, je crois, il dit ici à Kananga, vous trouvez beaucoup de fonctionnaires de l'État qui dépendent de leur salaire et cela n'arrive même pas à satisfaire les besoins du foyer, alors ils vont emprunter l'argent dans ce qu'on appelle les banques Lambert et à la fin du mois quand on le paye, bon, c'est l'argent, il doit payer les dettes et puis il se retrouve main vide. C'est ce que Platini nous a parlé, nous a dit aussi à Mbandaka, c'est ce qu'on appelle Kotama.
Oui. Oui, ça revient plusieurs fois, ouais, l'histoire des banques Lambert.
Les banques Lambert.
Pourquoi ? Parce que les dettes, c'est, je voulais dire, c'est une conséquence ou la mesure de la pauvreté, c'est les dettes de consommation. Donc, quand l'homme n'a pas assez, quand il n'a rien, il est plus riche plutôt que quand il est endetté. Alors, au lieu de trouver les moyens pour sortir de la pauvreté, la culture de la pauvreté croit qu'en empruntant pour la consommation, on devient riche. Moi, je me rappelle toujours de l'adage de Benjamin Franklin qui disait « Vaut mieux dormir affamé que de se réveiller avec une dette de consommation ». Alors, malheureusement, pas seulement les fonctionnaires et tous les gens qui gagnent de faibles revenus ont tendance à recourir à des banques Lambert, ce qui constitue encore un enchaînement où...
Donc, vous allez emprunter l'argent et vous allez restituer avec un pourcentage un peu plus élevé.
Avec un pourcentage plus élevé. Mmh. Je ne sais pas si c'est légal, mais ces gens-là ne s'en sortent jamais. Quand ils entrent dans ce système de banque Lambert,
C'est un engrenage.
Un piège. Oui, un piège à vie. Il doit arriver à briser cela. D'ailleurs, ils font bien. Ce n'est pas seulement les banques Lambert, même les gens qui empruntent dans la banque.
Au niveau des banques, ok.
Voilà. Autrefois, quelqu'un m'a posé la question pour savoir quelle est la différence entre l'éducation financière dont je parle et l'éducation financière conduite peut-être par la banque centrale, n'est-ce pas? L'éducation financière conduite par la banque centrale, c'est justement ce qu'on appelle l'inclusion financière. On essaye d'amener la population à utiliser les produits financiers, donc à utiliser des banques, à prendre des crédits à prendre des crédits de consommation ou des crédits de développement. Or, si une population entre dans un système sans éducation financière, ça serait une population qui deviendra surendettée. Et on ne peut pas parler déjà... Quelqu'un qui est surendetté n'a pas d'abord de stabilité financière. Et on ne peut même pas parler de l'indépendance financière. C'est pour ça que c'est très important que les gens qui ont ces problèmes de pauvreté, qu'ils sachent qu'ils ont besoin des connaissances d'abord, qu'ils ont besoin d'un accompagnement, qu'ils ont besoin d'un encadrement pour comprendre leurs problèmes, pour comprendre leurs actions et pour... par la suite changer donc leurs actions et c'est en changeant leurs actions que les résultats peuvent changer.
On va accueillir Désiré Moulongo de Lumbashi, Kachai de Kanyoka, Shadrach Kankwende de Mbujimayi. Désiré Moulongo, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup monsieur. Je dis salut aussi l'invité.
Quelle est votre question rapidement?
Oui monsieur, je voulais d'abord affirmer aussi ce que l'invité venait de dire. Il a parlé de la problématique de la culture. Il est évident que les Congolais, nous avons ancré cette culture selon laquelle tous les évangiles que nous avons reçus nous parlent nous disent que les pauvres n'ont pas la chance d'hériter le royaume de Dieu et ce qui a reculé encore plus la mentalité congolaise. Alors je disais, nous, en tant que jeunes, nous avons sûrement cette envie de prospérer sur le plan financier, être indépendant, mais comment est-ce qu'on peut devenir indépendant pendant que, lorsqu'on veut investir, il y a autant de taxes qui sont devant vous? Et c'est là ce que j'allais poser comme question à l'invité. Qu'il me réponde, comment est-ce qu'on peut le faire dans les climats dans lesquels nous nous trouvons dans notre pays?
D'accord, merci. Kachai de Kanyoka, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup. Je voulais demander à l'invité quelques précisions par rapport à une situation que nous avons connue ici. Il y a des gens qui sont organisés dans une ristourne. Alors, dans cette ristourne-là, ils se donnent l'argent à la fin de chaque mois et qu'on sort. Mais il est arrivé qu'ils avaient déjà cotisé l'argent pour donner à quelqu'un. Alors, le président de la ristourne a pris suite avec l'argent qu'il est parti. Et si souvent, ils achètent même le meuble blanc, c'est-à-dire le bien de la maison, acheter quelques biens à mettre dans la maison pour quelqu'un, un membre de la ristourne et consorts. Mais au moment où on nous avait déjà cotisé cet argent-là, le responsable, le président de la réforme, a pris tout argent. Il a pris la fuite. Il a pris la fuite, on ne sait pas même les retrouver. Alors, quel conseil que l'invité peut donner par rapport à ça? Deuxièmement, c'est la situation d'un membre de la famille qui travaille, il est engagé, il est bien payé, mais il a l'habitude de donner son argent à son père. Ce n'est pas tout, mais c'est une partie. Il donne quand même la moitié à son père pour que peut-être les besoins ultérieurs pourront se présenter, on peut se venir. Mais lorsqu'il est venu pour demander l'argent à son père parce qu'il voulait se marier déjà, faire aussi des prêts d'ordre, des valeurs locales, ainsi de suite, ça crée un problème sérieux dans la famille. On a dit, toi, tu es engagé, tu travailles, tu dois d'abord chercher à devenir aux besoins de la famille et non t'engager déjà dans le mariage parce que les enfants est une charge. Alors, quel conseil encore tu peux donner par rapport à ces deux cas de figure? Merci.
Merci. Shadrach, vous êtes à Mbujimayi, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auteurs de la radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'indépendance financière?
Oui, merci. J'ai deux petites questions à poser à l'invité. La première, est-ce l'invité peut concilier le principe de l'indépendance financière et le principe de vivre chaque jour comme les derniers? C'est-à-dire, j'ai un jeune frère, lui quand il a l'argent, il souhaite tout prendre la journée parce qu'il dit demain ou le lendemain, je peux toutefois mourir. Et la deuxième question qui me concerne personnellement, quand je n'ai pas l'argent, des fois j'ai un projet. J'ai un projet, voilà, lorsque j'aurai l'argent, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et dès que j'ai l'argent, Monsieur Jody, je vous dis, je ne parviens pas à réaliser mon projet. Quels sont les conseils que l'invité peut nous prodiguer? Je dis et je vous remercie.
Bien, Monsieur Ricardo Canema. Quand il n'a pas l'argent, il a des bons projets. Dès que l'argent tombe dans ses mains, c'est fini, il va consommer et puis il se retrouve, il n'a plus rien.
Ça veut dire qu'il y a un conflit entre sa culture profonde et sa conscience. Ça veut dire l'idée d'investir, c'est une idée qui est intellectuelle, mais dans sa culture, il a été programmé à consommer.
À consommer.
Voilà.
Une consommation appauvrissante.
Appauvrissante. Ça veut dire, dès qu'il a l'argent, il ne peut pas se maîtriser et avoir donc la discipline de garder cet argent et de destiner cet argent à un investissement. Mmh. Voilà, c'est ça. Il nous démontre... clairement donc les faiblesses donc d'une mauvaise éducation financière. Et la même chose arrive avec les gens qui vont prendre des crédits en banque au nom d'un investissement. Tu vas voir quelqu'un va prendre un crédit de 500 000 parce que il a présenté un projet, il pense qu'avec 500 000 il peut se retrouver avancer, remettre l'argent de la banque et
faire évoluer et faire son business.
Mais il arrive à la maison, il n'a pas la culture financière, sa femme va lui faire comprendre qu'il a pris beaucoup d'argent comme ça, pourquoi ne pas rester avec lui et un souvenir de cet argent, payons d'abord une parcelle de 200 000 et puis on va travailler avec 300 000. Vous voyez que quand il n'a pas la culture financière, le fait de prendre cette décision-là, de changer la destination de l'argent, de payer la parcelle, il ne se retrouvera plus jamais d'abord dans son activité et ensuite pour payer l'argent de la banque.
Ça devient un problème.
Ça devient un problème, donc ça devient une source de pauvreté. Mmh. C'est pour cela que c'est très important que les gens comprennent que les riches sont riches parce qu'ils sont capables de vivre dans la discipline financière, ils sont capables de garder leurs chèvres jusqu'à attendre quelle que soit la souffrance d'avoir un troupeau de chèvres, plutôt que de faire l'erreur de manger leurs chèvres parce qu'on se retrouve dans une situation beaucoup plus dramatique que la situation où on était avant.
Kachai est revenu sur cette affaire des ristournes. Les gens mettent de l'argent dans une ristourne pour...
D'abord, les gens y mettent l'argent dans les ristournes parce qu'ils ont peur de vivre avec l'argent. Ils savent que s'ils
ils vont les consommer.
Il va les consommer.
Oui.
Alors, ce que moi, je conseille aux gens, pourquoi ne pas épargner votre argent en banque? Il faut aller vers des structures beaucoup plus solides. Il y a possibilité aujourd'hui de créer un compte épargne parce que nous avons quand même des banques un peu partout. Et de commencer
à mettre un peu
ton argent, où tu fais quand même une formation sur l'éducation financière, comment développer des capacités de vivre avec l'argent, de rester avec 100 dollars du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, malgré les difficultés, malgré les pressions de la vie, et c'est une étape très importante. Sinon, toute la vie, vous serez toujours obligé de vivre sans argent. Pourquoi? Parce que vous devez dépenser dès que vous avez un peu d'argent. Alors, cette culture, comme il devait venir de la famille, de l'école. Cette absence fait qu'aujourd'hui, vous avez donc besoin de formation, vous avez besoin de coaching, vous pouvez donc utiliser l'auto-formation par la lecture des livres. Vous avez parlé ici du livre La chèvre de ma mère. Mmh. Je montre justement aux gens comment moi-même...
À partir d'une chèvre, oui, comment on peut construire une richesse.
Oui, comment moi-même j'avais les problèmes de dépenser tout ce que je gagnais, et cela avait comme conséquence le maintien dans la pauvreté, et comment j'avais découvert qu'en en gardant une partie de ce que nous produisons, aussi petit soit-elle, et vous êtes arrivé, vous pouvez arriver à construire un fonds et avec la même discipline continuer à investir. Notre population a donc besoin de cette éducation, notre population a besoin de cette culture, notre population a besoin de parvenir à cette maîtrise dans la consommation. Et c'est tout cela que nous appelons la consommation intelligente. D'un côté, savoir que nous ne pouvons pas destiner toute notre nos revenus à la consommation. De l'autre côté, savoir que nous, comme nous sommes obligés de consommer, il ne faut pas seulement consommer de façon à enrichir les autres tout en s'appauvrissant, mais il faut arriver à consommer de façon à soi-même aussi s'enrichir et enrichir son réseau interne de richesse.
Gentil Oumanou nous appelle de Kananga. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour aussi à notre invité du jour.
Quelle est votre préoccupation, Gentil?
Merci pour ce sujet qui est très important, parce que l'indépendance financière relève quand même d'être autonome, comme Patrice et Mary Lumumba a dit, nous avons besoin de l'indépendance de la RDC. Si quelqu'un qui se débrouille sur le plan financier, alors il ne peut pas avoir un mauvais cœur à l'autre. Suite à cela, vous voyez, l'esprit de courtoisie et l'esprit de haine chez nous ici, ça commençait parce que quelqu'un qui ne se débrouille pas, il voulait aussi mettre une haine à celui qui se débrouille. Alors si cet esprit-là de financier, quelqu'un qui peut prendre aussi le plan psychologique, non, je voulais être indépendant de moi-même. Être indépendant de toi-même, c'est créer l'esprit de créativité. Par rapport à ce que l'invité a parlé, vous voulez être un agent de l'État, on vous paye par mois 50 000 francs. Vous prenez 50 000 francs là, vous mangez à un coup, vous attendez à ce qu'on doit vous payer encore. Oh, vous pouvez prendre les 50 000 francs là, vous créez aussi une petite activité de 20 000 francs. Vous mettez, par exemple, votre femme, commencez à vendre ces histoires-là. Là, vous pouvez créer d'autres activités, vous créez. Là, la source devient nombreuse. Vous voyez l'argent qui arrive ici. Vous voyez maintenant, les gens vont commencer à dire ça, c'est la bêtise. Non, ce n'est pas la bêtise, c'est l'esprit de l'activité. Alors, ma question est de savoir, je voulais demander à notre invité.
Oui.
Il y a quelqu'un qui a un esprit de créativité. Alors, il a une capital de 50 000 francs. Vous voyez quelqu'un qui vient, bon, les gens qui découragent les autres qui voulaient être indépendants financiers. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui a une capital de 50 000 francs. Vous voyez une taxe de 100 000 francs qui vient. Ça, c'est décourager quelqu'un qui voulait être indépendant financier.
D'accord.
Ou bien vous encouragez ce monsieur-là d'aller au-delà. Quel conseil que l'invité peut donner à ce genre de découragement comme ça? Merci beaucoup, c'est gentil, moi, depuis la ville du Canada.
Merci bien. Kapala, vous êtes à Moba, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Kachama, bonjour, monsieur Ricardo Kanyama.
Quelle est votre question?
Une très très petite question.
Oui. Allez-y.
Oui, c'est... Oui, je voulais juste poser la question à M. Ricardo. Ma question est de savoir quelle est la différence existante entre la pérennisation de la liquidité et l'indépendance financière. C'était juste une petite question.
Merci, M. Ricardo Kanyama.
Voilà, donc je pense que ce que les gens doivent savoir à ce niveau, parce que les gens parlent des salaires, les gens parlent de...
La liquidité financière.
Ce que vous devez savoir, oui, il n'existe aucune entreprise qui travaille pour rendre les gens riches. Si nous avons ici 1000 entreprises qui sont venues de l'étranger et qui s'installent dans notre pays, dans leur plan d'affaires, ils ne sont pas venus pour rendre les Congolais riches. Ils sont venus pour vendre un produit ou un service.
Mais gagner de l'argent.
Voilà, tout ce qu'ils disent, ils disent la vérité, nous allons créer les emplois. Ça veut dire, s'ils créent les emplois, ils vont payer un salaire. Maintenant, l'indépendance financière n'est pas liée à ce que l'institution doit faire pour toi. C'est lié à un plan personnel, à une direction personnelle, parce que tu es aussi une entité. Tu dois avoir l'objectif non seulement d'utiliser ces revenus pour survivre, mais de l'utiliser pour qu'à la longue, ça te crée, par exemple, ça te crée de l'indépendance financière. Je donne un exemple d'une des stratégies que vous pouvez utiliser pour atteindre l'indépendance financière. C'est lorsque vous avez suffisamment d'argent et que vous allez appliquer dans une banque et que les intérêts sont suffisamment élevé pour que vous puissiez vous prendre en charge. Quelqu'un, par exemple, qui a un revenu de 5 000 $ aujourd'hui, parce qu'il a appliqué de l'argent en banque, il peut vivre de ses intérêts chaque jour et mourir. Il a l'indépendance financière. Seulement, le problème, cette voie, c'est une voie pour les riches. Prenons un professeur d'université qui gagne 2 000 $ aujourd'hui. Même s'il a la discipline financière d'épargner les 100% de ce qu'il gagne, il lui faudra combien de temps pour réunir un fonds de 3 000 000 $ et espérer gagner des revenus passifs, par exemple, de 5 000 $. Il faut à peu près 125 ans. Et c'est beaucoup trop.
C'est beaucoup.
La même chose, cette indépendance, si vous devez construire une maison pour que la maison vous rapporte des revenus locatifs de 5 000 $, ça demande un fonds de 2 000 000, 3 000 000 qu'un homme moyen n'a pas.
On n'a pas, bien ça c'est sûr.
Voilà. Alors là, nous donnons donc des formations pour vous expliquer que la créativité dont nous disons, c'est d'abord une bonne chose parce que la créativité te permet de gagner de l'argent, mais tu as besoin d'accompagner d'une culture financière qui te permet d'abord d'épargner de l'argent que tu as gagné, mais aussi de mettre cet argent au service pour produire plus d'argent. Voilà. Donc, pérenniser, c'est arriver à investir de l'argent judicieusement pour... Un, ne pas perdre ton capital. De deux, continuer à avoir des intérêts, avoir l'augmentation du capital dans les temps. Et cela s'apprend. C'est comme conduire une voiture. Ça ne doit pas être
laissé. Ça s'apprend,
dans,
oui.
Ça s'apprend. Ça ne doit pas être considéré comme si c'est un domaine d'un jeu de hasard.
Mais à l'école, à l'université, on ne nous apprend pas ces choses-là.
Mais bien sûr, l'objectif de l'école n'est pas de nous apprendre cela. L'école nous apprend une profession et s'arrête à sa profession. Et mais nous avons les devoirs quand nous voulons donc passer de ce stade de stabilité financière à l'indépendance financière, nous avons besoin de savoir que tout ne s'apprend pas à l'université. Aujourd'hui, il est prouvé qu'on apprend à devenir professionnel auprès d'un professionnel. Donc, vous n'allez pas apprendre la mécanique auprès d'un charpentier. La même chose, donc, c'est prouvé qu'on apprend à devenir riche auprès des riches. Et parce que les riches n'enseignent pas, on peut apprendre de façon autodidacte à travers des lectures, à travers des formations, à travers des ateliers, à travers des conférences et de par le monde, surtout dans les mondes anglophones aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup des riches, donc partis des riens, qui y sont arrivés grâce à l'apprentissage qu'ils ont fait en utilisant cet apprentissage personnel et continu. Mmh. Et c'est ce que nous invitons donc la population congolaise aujourd'hui. Et comme peut-être dit la Bible, le travail de l'insensé le fatigue. Ça veut dire travailler avec des connaissances limitées ne vous amènera nulle part. Le moment est venu que nous puissions, nous avons l'Internet, nous avons aujourd'hui la possibilité d'apprendre en ligne, nous avons aujourd'hui la possibilité d'apprendre même des choses qui n'existent pas chez nous. Nous devons donc utiliser tous ces moyens que nous offre le siècle maintenant pour augmenter nos connaissances, parce qu'en augmentant nos connaissances, nous trouverons pourquoi les riches sont riches, quelle est leur culture, quelle est leur foi, quelles sont leurs croyances, quels sont leurs plans,
les riches ont des habitudes et les pauvres ont aussi leurs habitudes, c'est la consommation surtout.
Voilà, c'est cette habitude-là par rapport à la production et par rapport à l'utilisation qui fait d'abord la différence entre un riche et un pauvre. Un pauvre produit peu, il consomme beaucoup. Un riche produit beaucoup et il consomme peu. Donc un riche peut-être consomme 1% de sa richesse alors qu'un pauvre consomme 110% de sa richesse grâce à des dettes qu'il contacte de gauche à droite.
Oui. On va accueillir Maître Gaston de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, jeudi.
Quelle est votre question, Maître Gaston?
Oui, le problème, c'est produire, jeudi. Produire, c'est pas au niveau de la consommation. Mais je suis dans un champ là où j'ai planté 700 arbres fruitiers. Je ne sais pas ce que ça va donner dans 20 ans, si je pouvais devenir indépendant financièrement. Mais je voulais savoir en soi...
C'est quel type d'arbre que vous venez de planter?
Oui, j'ai planté les bananiers, les avocatiers, les manguiers, les orangers,
il y a 6 espèces comme ça, des algues.
Oui.
Mais ça pousse aussi bien. Là, je suis en train d'observer. Ça me donne même la joie de voir comment ça c'est en train de pousser.
Alors, ça, c'est une bonne chose.
C'est une très bonne chose.
Voilà. Mais ma réaction, c'est à ce niveau ici. Est-ce que ce terme-là, indépendance financière, existe réellement? Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire en soi. Est-ce que ça veut dire ne plus emprunter, ne plus chercher de l'argent parce qu'on en a suffisamment, ou ça veut dire quoi au juste? Et surtout que nous voyons même ceux qui te disent puissants, emprunter. Et il a dit aussi sur les plans commerciaux qu'un bon entrepreneur ou soit un bon commerçant, c'est celui qui travaille avec l'argent des autres. Je voulais un peu savoir aussi par rapport à l'État, parce que vous savez, notre État aussi ne produit pas, c'est un consommateur non intelligent. Est-ce que il y a des conseils aussi à donner, il y a aussi une instruction spécifique qu'il faut donner à un État qui est une personne morale pour commencer à produire et puis devenir aussi indépendante financièrement.
D'accord, merci Maître Gaston. Maître Isidore sur Facebook nous dit « La plupart des travailleurs font face aux multiples revendications par rapport à la rémunération qui a un caractère alimentaire, c'est le code du travail. Et ils sont très mal rémunérés par l'État, ils sont payés en monnaie de singe, ils se débrouillent pour vivre. Alors comment atteindre cette indépendance financière ?» Ricardo Kanyama.
Oui, là vous parlez des conséquences. Les conséquences, pourquoi nous sommes arrivés là? Pourquoi nos parents qui ont travaillé en 1960 ont eu la chance de payer des villas, de vivre décemment, et aujourd'hui des jeunes avec les mêmes diplômes n'y parviennent pas? Alors moi je suis ici en train de faire comprendre la population que vous parlez de l'État, mais l'État est le reflet de l'habitant. Ça veut dire c'est consommateur qui n'est pas intelligent. Quand il prend le contrôle de l'État, il le fait maintenant à l'échelle et avec une puissance beaucoup plus grande. Mmh. Alors, notre population est dirigée aujourd'hui par la mentalité de la pauvreté.
Ricardo Kanyama, on n'a plus assez de temps. Alors, pour ceux qui sont intéressés par les formations dont vous parlez, par quel numéro on peut vous joindre?
Oui, ils peuvent nous joindre par un numéro Vodacom, le 081-63-91-311. Je répète, le 081-63-91-311. Je pense que là, ils auront donc l'opportunité de participer à des conférences, de participer à des formations et même de participer à une structure qui leur permet d'approfondir leurs connaissances sur les revenus passifs, sur l'indépendance financière, mais aussi de profiter du cadre créé pour produire leurs premiers revenus passifs. Alors, je voulais juste parler au maître Gaston pour dire que l'indépendance financière ne veut pas dire qu'on n'emprunte pas de l'argent.
Oui.
Mais on n'emprunte pas l'argent des consommations, on emprunte l'argent des
On aura l'occasion de revenir là-dessus. Merci Ricardo Kanyama, coach en éducation financière. À la prochaine.
Merci beaucoup.